Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore dans cette émission. Eh bien, de quoi allons-nous parler? Dans cette deuxième partie de l'émission, on va parler de la réparation des victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Comment le FONAREV va s'y prendre après la tournée d'itinérance effectuée dans 5 provinces pilotes. Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Monsieur Lucien Alundula, directeur général du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Monsieur Lucien Alundula, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pachara.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Les sujets vous intéressent, vous voulez participer à cette émission, les standards et tout est déjà ouvert. Composez le 099-706-9941. Appelez-nous et nous allons vous rappeler pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Jean-Noël Mokundo à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission que présente Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute de cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien.
Le 42 502, c'est Radio Capi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42 502. 42 502. Une fois sur le 42 502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et banane doublée au 323. Le 42 502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502. 42 502. Uniquement pour les abonnés Vodacom.
Bien, une importante délégation du FONAREV, le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, a effectué en septembre dernier une mission d'itinérance dans 5 provinces, à savoir l'Ituri, le Nord et Sud Kivu, le Kasaï central et le Congo central. Une itinérance qui a permis au FONAREV d'établir un contact direct avec les victimes, mais aussi avec d'autres personnalités engagées dans la lutte contre les violences sexuelles, à l'instar du prix Nobel, le docteur Denis Mukwege. Rappelons que le FONAREV a pour mission d'aider les victimes des violences sexuelles et autres crimes contre la paix, d'avoir accès à la justice et de les indemniser après les dommages subis. Alors, quel bilan dressé de cette tournée dans les 5 provinces pilotes? À quand les débuts des réparations des victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo? Eh bien, on aura les réponses à toutes ces questions avec notre invité. Il s'agit de Monsieur Lucien Alundula, directeur général du FONAREV. Monsieur Lucien, encore une fois, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette émission.
Bonjour et je suis ravi également de vous retrouver.
Bien, la première question est de savoir qu'est-ce qui avait motivé cette tournée dans les 5 provinces pilotes.
D'abord, il s'agit là de notre mode fondamental de fonctionnement. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, pour nous, nous avons l'ambition de ne rien faire sans les victimes. Donc il était primordial pour nous, avant de poser tout acte ou toute action prioritaire, d'aller tâter sur le terrain, les réalités du terrain, échanger avec toute une série de personnalités ou des associations, c'est-à-dire en commençant par les victimes, les associations, ou ce qu'on appelle l'écosystème de victimes, le pouvoir politico-administratif, mais également, comme vous l'avez si bien dit en introduction, certaines personnalités qui sont connues dans le monde des réparations. Donc il était vraiment primordial pour nous, avant de poser tout acte, d'aller sur le terrain. Philosophie même du FONAREV.
Voilà, aller sur terrain, palper les réalités du doigt. Alors quel constat avez-vous fait lors de cette tournée?
Ces provinces pilotes ont été choisies dépendamment de la gravité des atrocités qui se sont déroulées à travers le pays. Ces 5 pilotes, comme vous l'avez si bien mentionné, chaque province a une certaine particularité, bien que tous ayant connu des violences, les victimes ont connu des violences ou atrocités graves, mais chaque province avait sa particularité. Par exemple, dans l'Ituri, au-delà des milices militaires, il y a des conflits communautaires également. Donc il y avait la plupart des conflits qui ont mené à des atrocités étaient liés directement aux conflits, de parcelles ou de communautés qui se disputaient des frontières entre parcelles. Par contre, dans d'autres provinces telles que le Nord Kivu, là, il était question, ben, c'est vraiment l'épicentre même des violences dans la zone Est, où la population civile a connu toute une série des milices militaires. On peut parler de l'AFDL, l'entrée du RCD, et au jour d'aujourd'hui, on parle de M23, oui, voilà. Et là aussi, il y avait une certaine particularité. Les violences sont, disons-nous, identiques, mais les causes varient d'une province à une autre, et ça, c'était un premier constat.
Bien, et après le Nord et le Sud Kivu, vous étiez au Kasaï central. Alors là-bas, quelle est la particularité?
La particularité du Kasaï central, il y a eu des affrontements entre certaines milices, dirons-nous, et nos forces armées. Et là aussi, il y a eu des abus dans certaines communautés religieuses, dans certaines villes où là aussi c'est des atrocités. Là c'est vraiment l'armée et la milice de Kamona Sapu qui à un moment donné il y a eu
des cas de viol,
des cas de viol, de mutilations et des tueries vraiment avec beaucoup d'agressivité durant nous.
Et puis vous avez fini votre tournée dans le Congo central.
Nous avons terminé dans le Congo central. Au niveau du Congo central, c'est encore la particularité. C'est là, c'est l'armée de la République qui, à un moment donné, entre en confrontation directe avec une communauté, les Budubudia Congo. Et là aussi, il y a eu beaucoup d'atrocités. Et la particularité des victimes du Congo central, c'est que nous avons constaté qu'ils sont déjà très bien organisés. Il y a toute une série de décisions de justice qui sont en leur possession. Et là aussi, les victimes demandaient toute une série de choses en action. Et étrangement, c'est l'accompagnement psychomédical qui venait en tête. Et l'accompagnement en justice, et surtout les cas de vetting, parce que là, ils retrouvent certains bourreaux qui ont commis des atrocités ou des préjudices et qui sont toujours en fonction. Et là aussi, il était question d'agir et demander toute une
série. Qui sont toujours dans la communauté, qui vivent avec eux.
Qui vivent avec eux dans la communauté. Et c'est cette particularité-là, on la retrouve aussi un peu dans le Sud Kivu. Et ce sont des réalités qu'il nous faut évidemment s'en occuper, parce qu'ils demandent un accompagnement au niveau de la justice pour que le bourreau ne puisse plus rester en fonction.
Alors après cette tournée, vous vous êtes sûrement fait l'idée de ce qu'il y a comme besoin. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à tout cela?
Par rapport à tout ça, il y a la liste est longue. La liste est longue, donc vous me permettrez que je puisse aller dans les détails. Nous avons pu globalement échanger avec plus ou moins 1206 victimes réparties sur les 5 provinces. Et dans les besoins et les attentes des victimes vis-à-vis de Fonarev, telles qu'exprimées, ça se résume comme ceci. D'abord, pour la plupart, ils demandaient la construction de maisons d'hébergement dans les camps des déplacés et d'autres victimes qui ont connu des destructions de leurs maisons. Beaucoup, évidemment, exigent le rétablissement de la paix dans les zones en occupation par les groupes armés, l'accès à la justice, l'accompagnement judiciaire des victimes afin de condamner les auteurs de violences sexuelles et autres crimes qu'ils répondent à leurs actes. Il y a évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la prise en charge médicale et psychologique des victimes. La plupart de déplacés demandent à ce qu'il y ait également l'adduction d'eau, donc de forage d'eau, parce qu'ils sont dans des conditions assez, dramatiques, inhumaines. Et ils exigeaient qu'on puisse mettre des adductions d'eau et puis tout ce qui est assainissement de cet espace-là. Il y a également le problème de la construction des protections et des directions de sites mémoriaux pour honorer les victimes. Et puis il y a ce qu'on appelle le relèvement économique, le soutien économique des familles des victimes, mais également la construction des écoles, des hôpitaux et l'encadrement des enfants issus de viol. Voilà là quelques listes de recommandations ou du moins des demandes des victimes par rapport ou des attentes des victimes par rapport à Fonarev.
Alors, donc il y a beaucoup de choses à faire.
Absolument.
Alors, par où allez-vous commencer, monsieur le DG?
Bon, nous avons établi à la suite de cette itinérance, et on y travaille encore, il s'agit d'un plan d'action spécial qu'il nous faut développer pour répondre rapidement à ces besoins. Par exemple, quand on parle de remettre les enfants à l'école, c'est-à-dire que dans ces camps-là, on se retrouve avec des nombres, un grand nombre des enfants qui sont déscolarisés. Mmh. Il est question dans ces camps, par exemple, de rajouter des nombres de classes. Où on se retrouve avec un camp où il y a plus ou moins 5000 enfants ou 6000 enfants, et en réalité, le nombre actuel de classes ne permet de recueillir que, par exemple, 1000 enfants. Mmh. Donc, la demande de victimes était d'augmenter le nombre de classes pour permettre à ces enfants qui ne vont pas à l'école d'être scolarisés. Il y a également des bâtiments qui ont été détruits directement, tels que les hôpitaux, ou encore des centres de santé
qu'il faut réhabiliter.
Donc il y a toute une série de choses au fait que nous pouvons faire rapidement. Nous n'avons pas besoin d'attendre 7-6 mois dans des calculs ou des réunions inconsidérées. Mmh. Donc là nous avons mis un groupe d'architectes et autres responsables dans le domaine des bâtiments et avec les autorités locales pour voir comment est-ce que nous pouvons suppléer ou faire en sorte que ces questions puissent être prises en compte.
D'accord, on va accueillir un premier auditeur, Ismaël, depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à l'invité.
Bienvenue Ismaël, quelle est votre préoccupation?
Oui, merci beaucoup. C'est un sujet très important pour moi, mais je m'en vais plus vite poser la première question. Mais en cas de conflit de terre et de la guerre, les victimes ou la première victime est la femme. Mais la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour casser cette arme de la guerre, qui est la souffrance et la violence faite aux femmes en cas de guerre. Mais la deuxième préoccupation c'est de savoir quelle est la différence entre la violence sexuelle et le mariage forcé. Et la préoccupation que j'ai aussi, c'est de savoir, bon, si l'invité peut spécifier, si par exemple vous allez au passage central, vous trouverez les lycées, hein, les bureaux pour la défense des enfants qui subissent un peu de violences sexuelles. Mais pourquoi dans certaines provinces, ce genre de bureaux n'existe pas? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire en sorte à ce qu'ils puissent aussi couvrir toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Envie de donner la valeur à la femme quand il y a les conflits de la guerre, que ce ne soit pas les femmes plutôt que tout le monde. Si les femmes aujourd'hui sont violées, qu'est-ce qui est à la base? Ou comment faire le parallélisme entre la guerre et la violence sexuelle faite aux femmes? Et s'il s'agissait de réintégration des femmes, que ce soit au niveau psychologique, au niveau médical et au niveau de prise en charge, quels sont quelques éléments qu'ils ont en train d'initier spécifiquement pour prendre les femmes en charge? En guise aussi de conclusion, quelles sont certaines modalités de la valeur que ces bureaux ou ces genres de personnes donnent aux femmes qui ont été victimes de la violence sexuelle? S'il en est ainsi dans les jours à venir et le bilan par rapport à cette année, combien de femmes en Guise ou...
Monsieur Ismaël, vous avez beaucoup de questions là. Il n'est plus en ligne, malheureusement, il y a un souci au niveau de la communication, mais on a quand même retenu l'essentiel de ce qu'il voulait nous dire. Merci d'avoir appelé Ismaël de Lubumbashi. Monsieur le DG, Lucien Londoula, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à toutes ces préoccupations soulevées?
En termes de conflits ou par rapport aux victimes, je pense que la réponse la plus naturelle serait de dire d'établir la paix. C'est à partir de la paix que, au fait, c'est la première recommandation des victimes qui est d'abord la paix. Et cette paix, c'est le travail sur lequel le gouvernement et le chef de l'État s'attellent à faire pour le moment. Parce que aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a, c'est dans le conflit, il y a ce qu'on appelle des causes qui sont endogènes, donc propres à la République démocratique du Congo, et d'autres qui sont exogènes, qui proviennent de certains pays voisins et qui est sous influence, qu'ils utilisent, disons, certains mouvements politiques à notre niveau. Mmh. Par exemple, le cas où je vous ai parlé à Bounia, On demande que l'Institut géographique national puisse venir pour délimiter le terrain entre les communautés. Là, voici, ce sont des réponses concrètes que les victimes ont demandées. Je vous l'ai dit et je le répète encore, rien ne se fera sans les victimes. C'est-à-dire que nous n'allons pas inventer des solutions, des réparations. Mmh. Nous attendons à ce que les victimes eux-mêmes nous disent ou nous indiquent, ou les associations des victimes, parce que nous aurons un cadre de concertation. Et dans ce cadre de concertation, tout le monde sera inclus, c'est-à-dire les victimes, les associations des victimes, et même les grandes personnalités de ce pays qui s'occupent des questions de réparation. Dans un premier temps, on nous a demandé, par exemple, comme je vous ai dit, le cas d'Ituri, de faire en sorte que l'Institut géographique vienne sur place pour délimiter les frontières entre les communautés. Et ça, c'est une solution ici. Donc voilà un peu, globalement, en termes de réponse, c'est vraiment quelque chose qui viendra, au fait, à partir de ces comités de concertation ou dans la pratique, province par province, parce que le besoin d'une province ne sont pas nécessairement
les besoins d'une autre.
Donc voilà, ce sera vraiment assez personnalisé en termes de communauté. Et nous espérons également, dans le cadre du jour des réparations et de l'écosystème des victimes, que nous puissions faire des grandes fédérations au niveau des institutions ou des ONG qui s'occupent des victimes, pour qu'ensemble, finalement, nous puissions avoir des réponses non seulement concertées, mais harmonisées au niveau de la République.
Bien, nous parlons de la réparation des victimes des violences sexuelles en RDC, comment le FONAREF va s'y prendre. Monsieur le DG, vous avez identifié beaucoup de besoins que vous avez énumérés tout à l'heure. Alors, par quoi vous allez commencer et quand?
Voilà, compte tenu du plan d'action spécial, il est question pour nous, dans ce premier trimestre, il faut respecter toute une série de procédures, les appels d'offres, et puis il y a toute une série de travaux ou de préparations qui doivent se faire au préalable. Nous avons planifié de commencer en tout cas nos premières réparations collectives avant la fin de cette année-ci, c'est-à-dire durant ces trimestres. Nous allons suivre ce qu'exige la loi en termes de passation de marché. Nous allons suivre ce qu'exige la loi en termes, par exemple, on peut construire une école. C'est bien de construire une école, mais ça implique que le ministère de EPST puisse être au courant, parce que nous n'allons pas faire des classes sans qu'il y ait des enseignants. Ces enseignants doivent être rémunérés par le gouvernement. Mmh. Et là, nous avons aussi un travail à faire au niveau des ministères en charge de ces questions, pour voir en termes de procédures, que nous puissions respecter ces procédures. S'il s'agissait de faire ces actions sans procédure, nous aurons fait déjà des réparations dès ces mois-ci. Mais nous sommes dans des procédures aussi bien administratives qu'exige la loi pour mettre en place toute une série d'actions.
Bien. Par exemple, là, vous avez parlé aussi de la construction de forages d'eau, par exemple. Oui. Les gens en ont besoin. Il y a les sites mémoriaux qu'il faut ériger, tout ça. Donc, il y a une certaine programmation par rapport à tous ces besoins.
Absolument. Mmh. Par exemple, vous avez parlé de forages d'eau. Nous avons, par exemple, trouvé dans les camps de déplacés toute une série de maladies qu'on appelle les maladies de main sale.
Ouais.
Et cette maladie, ça prend de l'ampleur. Donc pourquoi? Pour faute d'eau et ou encore de sanitaires, tout simplement. Mmh. Et ce sont des choses que nous pouvons faire très rapidement, mais même là aussi, il nous faut suivre absolument les procédures.
Bien, que, nous parlons de la réparation des victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo avec notre invité, Monsieur Lucien Lundula, directeur général du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. On va accueillir Monsieur Malonga depuis Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour Jody. Et bonjour à notre invité et à tous ceux qui nous suivent à ce moment-ci.
Monsieur Malonga, qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui?
Bon, félicitations d'abord à l'initiative de notre invité.
Oui, monsieur Malonga. Il n'est plus là, il y a peut-être quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. Je pense que Tati va le rappeler. Monsieur Malonga, vous êtes là? Voilà, il n'est plus là, on continue, il va certainement nous rappeler. Nous parlons de la réparation de victimes de violences sexuelles en RDC, comment le FONAREV va s'y prendre. Vous avez dit, monsieur le DG, que donc d'ici la fin de l'année, vous allez déjà lancer quelques actions. Bon, par exemple, s'il faut construire des écoles, ça doit se faire en collaboration avec le ministère de l'EPST. Alors, quelles sont les autres réponses que vous comptez apporter d'ici la fin de l'année, de cette année?
Comme je vous ai dit tout à l'heure, et je me répète, il y a dans le demande de nos victimes ou des associations de victimes, il y a vraiment ce que nous appelons les réparations collectives. Et dans les réparations collectives, il y a tout ce que je dis tout à l'heure, des programmes tels que le relèvement communautaire, les bâtiments administratifs et sociaux, durant nos socio-économiques pour les victimes, l'hôpital, l'école. Ce sont là des choses que nous pouvons faire assez facilement. Il y a également...
Pardon, on me fait signe que M. Malonga est de nouveau en ligne. M. Malonga, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Allez-y, on vous écoute.
Bon, je disais ceci. Vous savez que cette situation, ce cas-là de... d'attrister vraiment les femmes, nos filles et d'autres familles, ça fait mal au cœur. C'est comme si ces familles-là sont abandonnées. Mais l'initiative de l'invité, c'est apprécié. Mais je vais demander à l'invité, vous voyez, c'est à l'Est seulement qu'on peut projeter la vision de ce cas que nous venons de dire ici. Mais tous les pays, est dérangé de ces cas-là, de la violence sexuelle. Qu'est-ce que l'invité peut nous démontrer que cette initiative qui vient d'annoncer là-bas et qui vient d'expliquer, ça peut atteindre chaque famille qui est vraiment victime de cette violence sexuelle? Puisque la violence, il y a des qui viennent, mais les familles proprement dites qui sont victimes ne bénéficient jamais. Même des personnes agressées, violentées, ne reçoivent rien. Tantôt, si ZONG arrive ici, à la République démocratique du Congo, ils arrivent, ils négocient avec les autorités, et ces autorités-là se font comme ce sont eux qui étaient agressés. Or, les victimes sont les laissées quelque part. Alors, est-ce que l'invité peut nous éclaircir de cette situation-là? Puisque le verbe, c'est bien dans les mots, ce qu'il vient de nous expliquer. Mais la concrétisation, c'est ce que la population a besoin de satisfaire, toutes ces victimes-là. Merci en tout cas, je dis, avec ces émissions qui nous encouragent et qui nous préparent aussi à être des responsables. Merci beaucoup, de bonnes choses.
Bien, bonne journée, M. Malonga. M. le DG, à vous la parole.
Nous remercions M. Malonga pour sa question, et sa question est vraiment importante. Pourquoi? Il a raison de dire que c'est vrai que nous avons entamé l'itinérance majoritairement dans nos provinces de l'Est, mais la réalité des violences sexuelles au niveau de la République en temps de conflit est globalisé. C'est tout le territoire congolais
qui est concerné.
Nous avons donc procédé à 5 provinces pilotes. De l'expérience que nous allons établir au niveau de ces 5 provinces, nous allons l'étaler sur le reste de la République en termes de méthodologie. C'est-à-dire, nous allons, dans les mois qui suivent, répondre, du moins, aux attentes des victimes de 5 provinces. Par après, quand vous regardez dans le plan annuel ou la feuille de route annuelle du FONAREV, il est question de poursuivre cette itinérance. C'est-à-dire, pourquoi nous devons le poursuivre? Parce que nous avons remarqué que chaque province, bien que l'acte posé soit identique, mais les causes endogènes et exogènes sont différentes. Donc c'est important, après le 5 provinces que nous venons d'effectuer, de continuer tout au long de l'année.
La tournée dans les autres provinces.
C'est obligé, parce que la réponse que les victimes de Goma peuvent donner n'est pas identique aux réponses que les gens de Chuapa ou de d'autres parties.
Mais les besoins qui seront exprimés.
Les besoins sont différents. Mmh. Les besoins ou les priorités, du moins, sont différents. Mmh. Et pour répondre à Monsieur Malonga, il y a ce que nous appelons au niveau du FONAREP qui est la liste unique consolidée. Nous allons procéder. Pourquoi les victimes ne reçoivent peut-être pas des indemnisations ou des réparations, dirons-nous? Parce qu'au fait, la structure n'existait pas. C'est une structure, en réalité, qui existe depuis... nous, on n'est pas une ONG. C'est un établissement public qui a établi, qui a une loi. Et cette loi qui protège et qui permet à ce que les réparations se fassent selon une base légale. Mmh. Avant, c'était les ONG qui venaient ici.
Mais maintenant, il y a une structure, de l'État.
C'est une structure de l'État
qui s'occupe de ça.
Qui va s'occuper de ça. En fait, jusque-là, s'il n'y a rien qui a été fait, ce qu'on a fait, c'était des réparations, dirons-nous, intermédiaires. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'établissement public, il nous appartient d'écouter la victime et de savoir comment la victime veut être réparée par rapport au préjudice subi. Et là, comme on le sait, qu'on est dans le cadre de la justice transitionnelle, c'est-à-dire l'État a l'obligation de s'occuper de sa population, là où l'État aurait dû protéger la population.
Mmh. Monsieur le DG, un internaute pose la question. Le pays a connu plusieurs guerres qui ont fait d'énormes victimes. Le FONAREV va les prendre tous. En d'autres termes, quelles sont les victimes concernées par la réparation?
La loi FONAREV nous donne une date, disons-nous, de l'année 1993. C'est à partir de cette date qu'on a remarqué qu'il y a eu de violences sur un grand nombre, avec le viol comme arme de guerre. Et de 93 aujourd'hui, vous voulez bien comprendre qu'il y a un grand nombre de victimes, d'où l'importance de commencer par des réparations, dirons-nous, collectives. Parce que ces réparations collectives touchent un grand nombre de victimes, mais cela n'exclut pas qu'il y ait également des réparations individuelles qui soient urgentes ou emblématiques.
Bien. Alors, on va prendre d'autres auditeurs qui veulent participer à cette émission. Nous parlons aujourd'hui de la réparation des victimes des violences sexuelles en RDC par le FONAREV. Alors, Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa, vous voulez participer à cette émission. Le standard est ouvert, composez les 099-706-9941. Maître Gaston, bonjour.
Bonjour, Jody, Daniel.
On vous écoute.
Bon, je dis, vous savez, la réparation normalement doit se faire sur base d'une décision, hein.
Oui. Oui, allez-y, Maître Gaston. Il s'agit de quelle décision? Il n'est plus en ligne. Voilà, peut-être qu'il y a quelques soucis. Bon, je ne sais pas de quelle décision il s'agissait.
Non, mais Maître, évidemment, c'est un juriste, donc il sait de quoi il parle. La réalité, comme on a dit, au niveau individuel, nous allons nous baser sur les différentes décisions des justices qui ont déjà été établies par rapport à un préjudice subi par un individu. Et c'est pourquoi on a dit, au moment de commencer les réparations individuelles, nous allons d'abord commencer les réparations sur des cas où les décisions de justice ont déjà été clairement établies. Et par après, il faut rappeler que nous sommes dans un cadre de justice transitionnelle, et là aussi, la preuve, ou dirons-nous, ce sont des réparations, dirons-nous, administratives. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait nécessairement une décision de justice.
Voilà. Donc, un instant, Monsieur le DG, Monsieur Gaston est encore là. Oui, Gaston, on vous écoute.
Pour envoyer ce message en savoie.
Oh là là. En tout cas, il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. Bon, Tati va encore tenter de le rappeler. Je pense que cette fois-ci, ça va marcher. Monsieur le DG, vous pouvez poursuivre.
Oui, donc je disais que dépendamment de la personne, il y a d'abord des décisions de justice qui ont déjà été clairement établies, que nous allons commencer par indemniser ces toutes premières personnes. À travers la République, il y a des gens, une fois qu'ils ont subi cette violence, ont été en justice, ils ont des décisions en leur faveur. Ces personnes seront réparées. C'est-à-dire, pour le moment, vu que nous avons dit que nous allons associer tout le monde dans non seulement les procédures, mais également la nomenclature ou le tableau, dirons-nous, des réparations, parce qu'il y a plusieurs formules qui sont devant nous. Mmh. Et là aussi, bientôt, nous aurons des états généraux au niveau des fédérations ou l'écosystème des victimes et des victimes pour trouver une formule qui convient à tout le monde. D'où l'importance de commencer d'abord sur des réparations collectives et non sur les réparations individuelles. Parce que c'est toute une procédure qu'il nous faut suivre.
Bien, voilà. On me fait signe qu'il est encore de nouveau en ligne. Maître Gaston, on vous écoute. Oui, Maître Gaston, vous êtes là?
Pour envoyer ce message en savoir.
Alors, décidément, donc, ça ne marche pas avec Maître Gaston aujourd'hui. Nous parlons de la réparation des victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Comment le FONAREV va s'y prendre? Vous avez des questions et préoccupations? Vous voulez participer à cette émission de La Vie au quotidien? Composez le 099-706-9941. 099-706-9941.
Londa yangu mumuti kusukuka jomba kaka kapi, mumuti funda makumi anani biji, kamitano ni biji, kuni mofunda kamisato juku misato, biki la misango juku michana na anukuvuda kwa.
Bien. Réparation des victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Comment le FONAREV va s'y prendre après cette tournée d'itinérance dans les 5 provinces pilotes? Vous avez dit que vous allez poursuivre dans les autres provinces jusqu'à parcourir les 26 provinces de la République. Vous allez travailler avec les associations des survivants. Mm-hmm. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y aura un état, vous allez organiser un rassemblement de toutes ces associations pour arriver à dégager un chronogramme. Je pense que c'est cela que vous allez vous compter
non,
faire.
Non seulement un chronogramme, mais surtout quelle formule adopter. Parce que, comme si, l'a si bien mentionné l'avocat, le maître tout à l'heure, ce sont des décisions qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc il faut d'abord voir les formules qui ont été proposées. Il y a des formules où on part du PIB, par exemple, puis un coefficient. En fait, on est dans les domaines des assurances. Donc, c'est-à-dire que quand on parle des réparations collectives, est-ce que nous allons avec un modèle, ce qu'on appelle les flat rates, c'est-à-dire le même montant de réparation pour tout le monde, vu le grand nombre des victimes en République démocratique du Congo, où allons-nous de manière personnalisée, on regarde l'âge de la personne, les préjudices subis. Donc il y a tous ces éléments où il nous faudra absolument ne pas prendre à la légère, mais considérer non seulement les victimes, les associations des victimes, mais également les personnalités qui sont déjà dans ces domaines-là et des institutions. Lors de notre séjour à New York, dans l'accompagnement du chef de l'État aux Nations Unies, on a pu assister également à une conférence sur les réparations, où il y avait différents experts de par le monde qui étaient là pour voir un peu quel est le modèle que nous pouvons appliquer en tant que pays qui a connu de violences de grande masse. Et là, on a pris le cas de la Colombie, où au niveau de la Colombie, ils ont déjà commencé à réaliser des réparations au niveau non seulement des réparations de manière individuelle, mais également en manière collective. On avait aussi, on nous a exposé le cas de Sierra Leone. Et là aussi, ils ont entamé non seulement des réparations collectives, mais également des réparations individuelles. Et dans ces deux pays, les modèles qui ont été exposés nous montrent que pour entamer des réparations individuelles, il y a toute une série de travail ou d'informations qu'il faut échanger non seulement avec les victimes, mais avec l'écosystème, parce que c'est important que nous puissions nous entendre non seulement sur le taux, la méthodologie, et que tout le monde soit d'accord. C'est-à-dire que ça sera exposé, on saura que pour tel type de préjudice, voici la formule que la République démocratique du Congo a choisie pour permettre qu'il n'y ait pas de contestation. On ne peut pas, pour le même préjudice, commencer à faire du clientélisme. Non, il sera important que nous puissions l'adopter tous et le mettre sur le site, par exemple, du FONAREV pour dire que voici la procédure.
C'est-à-dire
comment nous allons procéder pour atteindre une réparation au niveau des ayants droit, au niveau des victimes directes, Parce que là, il y a la victime directe et puis il y a les ayants droit, c'est-à-dire toutes ces victimes ou survivants ont droit à des réparations.
Alors, lors de votre visite à New York, vous avez eu des échanges avec Madame Pramilia Paterne, qui est du bureau de, qui est sous-secrétaire, n'est-ce pas, des Nations Unies en charge des violences sexuelles liées au conflit. Alors, qu'est-ce que, à l'issue de ces entretiens, qu'est-ce que vous avez pu retenir ou qu'est-ce que vous avez pu bénéficier après ces échanges?
En effet, nous avons échangé longuement avec Madame Patten, qui est sous-secrétaire générale des Nations Unies, grâce évidemment, entre autres, à la distinguée première dame, qui a voulu présenter l'équipe du Fonarev au sous-secrétaire général des Nations Unies, qui s'occupe des questions de violence en temps de conflit. L'objet de notre rencontre a été, dans un premier temps, d'abord de présenter l'équipe et de montrer un peu sensibiliser, parce qu'elle a été au courant, ou du moins à la base, parce que vous parlez, on sait que Fonarev est issu, entre autres, du communiqué conjoint entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo, mais également l'addendum au communiqué conjoint qui, dans ses recommandations, exigeait que la République démocratique du Congo puisse avoir un fonds pour réparer les victimes. Donc elle était déjà au courant de la démarche. Elle a été ici présente lors de la table ronde pour permettre à ce que plusieurs mois plus tard, Fonarev puisse exister. Nous avons échangé sur elle, sur les passerelles de collaboration entre les Nations Unies et Fonarev. Lors de ces échanges, nous avons obtenu l'assurance de Madame Patten de nous accompagner non seulement pour le renforcement des capacités de certains de nos experts, et également eux qui sont au niveau des Nations Unies, ils sont au courant ou ils suivent un peu les réparations qui se réalisent dans d'autres pays tels que la Colombie, le Kosovo et, ou encore la Sierra Leone. Et nous avons obtenu également un cadre de concertation avec nos experts pour voir comment les Nations Unies, au niveau de son bureau, ils peuvent nous accompagner en termes de consolidation ou de renforcement des capacités.
Bien, on va accueillir Benjamin qui nous appelle de Dibaya, Dibaya Louboué, au Kassai Central. Benjamin, bonjour. Voilà, on va rappeler Benjamin tout à l'heure. Il nous appelait de Dibaya Louboué. Il va nous rappeler dans quelques instants. Donc, je pense que ces entretiens étaient quand même enrichissants et vous avez beaucoup bénéficié.
Absolument. Nous avons évidemment aborder les questions ou les observations ou les conclusions, les recommandations des victimes lors de notre itinérance de 5 provinces pilotes. Et elle, qui est aussi dans ce domaine depuis tout un temps, elle a pu nous donner quelques conseils en matière de réparation, où elle aussi, elle pense que on est un pays à la fois post-conflit et en conflit, et il était important de ne plus abandonner la population victime de ces violences. Parce que pour certaines personnalités que nous avons pu avec qui on a pu échanger, ils estimaient que la RDC ne devait pas procéder aux réparations aussi longtemps que la justice ou la paix n'était pas établie. Mais nous ne pouvons pas fonctionner dans ce sens-là, étant donné le grand nombre d'abord des victimes.
Les victimes, c'est depuis 93.
Donc imaginez si on dit qu'on doit attendre jusqu'à ce que nous soyons en paix sur l'ensemble de l'étendue. C'était pas possible. Oui. Elle a partagé cette position avec Fonarev, qui nous estimons que nous ne pouvons pas attendre la fin du conflit pour commencer à réparer. Là où nous pouvons réparer, il nous faut le faire de manière urgente.
Bien, 099-706-9941, c'est le numéro par lequel vous pouvez participer à cette émission, appeler pour participer à cette émission. Mais la grande question que les gens se posent, c'est les fonds. Voilà, vous êtes un fonds. Où est-ce que vous allez trouver cet argent pour réparer, pour effectuer toutes ces réparations collectives, individuelles, les victimes des violences depuis 93? J'imagine que c'est beaucoup de personnes qui seront touchées. Alors d'où vont provenir les fonds?
Oui, je m'attendais à cette question. Je savais que
elle ne pouvait pas
être évitée. Et oui. C'est normal. C'est une question qui donne sens, qui s'explique. En effet, la loi a doté le fonds de plus ou moins d'une quinzaine de sources de financement. Principalement, il y a le budget de l'État déjà. Donc, il y a quelque chose qui est prévu au niveau du budget de l'État. Il y a 2,5 de l'ensemble des assurances de la République qui devraient être payées en République démocratique du Congo, qui devraient être déversées au niveau du Fonarev. Il y a également la partie la plus stable, dirons-nous, du fonds de Fonarev. Le fonds a été doté également, par décision, par la loi, de bénéficier également de 11% des redevances minières qui devraient être allouées, directement versées dans le compte de du Fonarev pour permettre ces réparations. Mais également, il y a des montants qui devraient aussi sortir de la vente de crédits carbone en République démocratique du Congo. Et il y a évidemment les plaidoyers au niveau national. Vous, en tant que citoyen, nous allons organiser dans les mois qui viennent des événements où nous allons demander un dollar pour de la part
procéder
de,
à la collecte
de fonds au niveau national, au niveau international. Tout ça,
chaque citoyen peut contribuer avec un dollar, par exemple.
Imaginez, nous sommes à 80 millions ou plus ou moins 120 millions de Congolais. Si chacun de nous donner ne fût-ce qu'un dollar, ben voilà, ça pourrait déjà constituer également un fonds. C'est-à-dire que la loi et les législateurs ont fait en sorte que, compte tenu du grand nombre de victimes, qu'il y ait cette partie qui soit assez stable de redevances minières, mais en dehors de redevances minières, il y a toute une série de montants qui seront là pour renforcer au niveau du budget pour les réparations du fonds. Et la loi est également aussi claire là-dedans. Près de 85% de tous ces fonds ne peut être que obligatoirement alloué à la réparation des victimes. C'est-à-dire, nous, en tant qu'institution, ou toutes les institutions qui seront liées au fonctionnement du fonds, y compris l'écosystème, ne peut dépasser le 15% de ces fonds. Et ce qui est assez exceptionnel ici, au niveau du pays, où on sait que souvent les institutions vont jusqu'à 50% de frais de fonctionnement d'une structure, et ce qui n'est pas correct.
Bien, nous parlons de la réparation des victimes aujourd'hui dans Okapi Service avec M. Lucien Lundula, qui est le directeur général du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Pour participer à cette émission, le standard est ouvert, composé le 099-706-99-41, 099-706-99-41. Bien, quand nous parlons de la réparation des victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo, avec M. Lucien Lundula, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, vous avez dit au début de cette émission qu'il y a au moins 1200 victimes répertoriées jusque-là, qui doivent être dédommagées.
Que nous avons
que vous avez rencontré
exactement
de la tournée. Oui. D'accord. Mais dans l'ensemble, vous estimez à combien le nombre de personnes qui seront touchées par la réparation?
Le nombre est tellement grand que je ne peux me permettre avec beaucoup de... Je manquerais de sérieux ou de crédibilité si je vous sortais un nombre au jour d'aujourd'hui. Déjà, par rapport au rapport mapping à l'époque, il y a plus de 10 ans, on parlait de 6 millions de victimes. Et ça, c'est à 10 ans. Imaginez le nombre qui a pu être tout simplement être élevé de manière exponentielle. Même au moment où nous parlons aujourd'hui, il y a encore des zones de conflit, donc ça continue. Nous n'avons pas encore terminé. Nous sommes en train de procéder aux différentes consultations que nous menons. Et même là, ce sont des représentations, dirons-nous, ce sont des représentations de groupes. Le nombre exact et précis, je ne pense pas qu'il y ait une institution, même internationale, qui puisse avoir ça, parce que nous sommes en plein zone par endroit encore de conflit. Mais il est vrai que le nombre est assez élevé. Nous avons eu l'opportunité d'échanger avec différentes victimes. À Kananga, par exemple, on a été carrément dans la commune de Ganza, où là aussi, on a rencontré un grand nombre de victimes. Ils ont déjà leur comité de vérité et de justice qui a fait un travail extraordinaire parce qu'ils ont pu identifier un grand nombre également de victimes. Et même là,
toutes ces victimes sont regroupées en association.
En association, et eux ont pu octroyer déjà ou identifier des victimes via cette commission de vérité et justice. Et ça permet déjà de pouvoir identifier les personnes qui pourraient bénéficier des réparations.
Bien. Voilà. Donc, alors, et une autre question est de savoir, par rapport, vous avez parlé de l'érection des sites mémoriaux. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Alors, pour ça, faut-il attendre l'année prochaine ou sera dans le prochain trimestre que cela sera effectif?
Au niveau de province, c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement, ce trimestre-ci. Mais au-delà de province et des territoires où les violences se sont déroulées, ici à Kinshasa, dans la capitale, il y aura un grand bâtiment qui contiendra tout simplement les différentes provinces de la République, où nous devons d'abord, là aussi, en termes de procédure, voir les autorités concernées, urbanisme, affaires foncières, pour trouver un endroit où nous érigerons quelque chose de...
Un musée
de violence sexuelle en République démocratique du Congo et de toutes les des crimes et autres, violences ou crimes sont déroulés ici sur le territoire congolais.
On va accueillir Célé depuis Kolwezi, dans le Lualaba. Bonjour Célé. Célé, bonjour.
Voilà, j'ai un peu de questions à savoir.
Oui.
Allô?
Oui, on vous écoute, Célé.
J'ai des questions à savoir.
Lesquelles?
Voilà, qu'est-ce qui sera l'objet des préparations dont on parle par les VG? Et la deuxième question est ici, donc, quelles sont les cinq provinces pilotes que vous voulez nous parler là-bas? Voilà mes deux questions.
Voilà, qu'est-ce qui fera l'objet de cette réparation et quelles sont les cinq provinces pilotes dont vous faites allusion?
Oui, bonjour Monsieur Célé. Au fait, en termes de réparation, il s'agit de tous les préjudices subis en temps de conflit. Il y a le viol, il y a l'assassinat, il y a... au fait, la loi est tellement claire là-dedans, c'est-à-dire tout préjudice qui aura été subi en temps de conflit en utilisant le viol comme arme de guerre, assassinat, violence grave. Donc la liste de préjudices est assez élevée. Je n'ai pas le document avec moi ici, mais c'est tous ces éléments qui feront l'objet des réparations.
Oui.
Et il y a les ayants droit, il y a les victimes directes, il y a les victimes indirectes. Donc les ayants droit.
Il veut savoir peut-être est-ce que ce sera une réparation financière?
Oui, la réparation financière arrivera en bout de ligne. Mais vu le grand nombre de victimes en République démocratique du Congo, l'idée c'est de commencer par des programmes qui vont toucher un plus grand nombre de nos concitoyens.
Et comme la construction des écoles, des hôpitaux, des centres de santé.
Mais cela n'exclut pas à un moment donné, parce que je vous ai expliqué que pour entamer des procédures individuelles, il y a tout un travail qu'il nous faut faire au préalable. Les réparations individuelles suivront par après, c'est-à-dire ça pourrait être, je ne peux pas vous donner avec exactitude le mois ou la période que ces indemnités individuelles vont commencer, mais tout simplement, à un moment donné, il nous faudra obligatoirement, parce que les écoles en soi, les préjudices ont été subis dans des corps des êtres humains, c'est-à-dire c'est pas en faisant des réparations collectives que nous avons pu réparer, mais il y a des réparations médicales qui ont été demandées, l'accompagnement en justice, ce sont des réparations, les relèvements économiques, il s'agit des réparations, les vetting, ce qu'on appelle le vetting, c'est-à-dire faire en sorte que les bourreaux qui ont commis des crimes ne puissent plus occuper des postes dans la fonction publique, ce sont là aussi des réparations. Donc les réparations, ça a plusieurs formes, comme on l'a dit déjà précédemment, et on le répète encore aujourd'hui, on ne peut pas limiter les réparations à la partie monnaie sonnante et trébuchante. Il faut considérer les réparations en termes de poursuite de justice, connaître la vérité de ce qui s'est passé, ériger les monuments pour se rappeler de nos victimes. Voilà, il y a plusieurs formes de réparation. Et pour répondre à sa question, les provinces qui ont été choisies, s'il s'agissait de cinq provinces, l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu, le Kasaï central et le Congo central. Mais là, on ne se limite pas à ça. il a fallu choisir, faire un choix que nous avons fait par rapport au caractère de foi violent des crimes ou au non au grand nombre. Vous savez par exemple que en termes de ces violences, le Sud qui vous représente à lui seul 40% des victimes de violences sexuelles liées en temps de conflit. Donc c'est pourquoi on a commencé par là. Mais nous savons tous que même dans ma province du Sankuru, il y a eu effectivement des violences aussi de cette nature-là. Mais nous arriverons beaucoup plus tard, dans, si pas à la fin de l'année, mais peut-être les, il y a toute une programmation qui est faite au niveau de visite des provinces pour que nous puissions vraiment à la base aller entendre ce que les victimes entendent de nous par province.
Alors, Monsieur Lucien, vous avez parlé tout à l'heure aussi de, des enfants issus des viols, par exemple. Toutes ces mamans, bon, elles ont entre les bras ces bébés.
Absolument.
Et puis, bon, elles en souffrent, mais bon.
Absolument.
Qu'est-ce que, comment comptez-vous les aider dans ce sens-là?
Là, il s'agit d'abord d'un accompagnement d'abord au niveau juridique de la loi. Parce que ces problèmes, c'est des enfants issus de viols, ils n'ont qu'un statut au niveau du pays, des enfants issus du viol ou la communauté, au sein de la communauté, on ne le reconnaît même pas comme, comme enfant, parce que...
Même leurs propres mères peuvent le rejeter.
C'est arrivé, déjà, absolument. Ouais. Même, on prend les cas d'une femme mariée, le mari, souvent, refuse de, que cet enfant puisse porter son nom. Et souvent, ces enfants, ben, issus de viol, portent le nom d'un oncle ou du père de la maman ou quelque chose comme ça. Et c'est un statut. On fait quoi avec eux? L'accompagnement au niveau des études, l'accompagnement au niveau de l'éducation. Et puis, ils sont même traumatisés parce qu'il y a une stigmatisation par rapport à ces enfants-là.
Tout à fait.
Et par rapport à cette stigmatisation-là, là aussi, il y a un travail psycho médical qu'il faut mettre en place en termes d'accompagnement et de la maman et de l'enfant, parce que là il y a deux personnes qui sont totalement stigmatisées par la communauté. Et là aussi il y a tout un travail un travail juridique pour donner un statut juridique à ces enfants là.
Voilà, il y a tout un travail à faire. Donc, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à la réparation. Il y a la réparation au niveau communautaire, il y a également la réparation au niveau individuel. Et vous avez dit tout à l'heure, après les 5 provinces pilotes, voilà, le Fonarev va continuer sa tournée, l'itinérance dans les autres provinces du pays. Et après, bon, vous allez dégager un programme. Mais vous avez dit déjà, dans les 3 prochains mois, il y aura déjà les premières actions.
Absolument. Les actions que nous allons poser au niveau des 5 provinces pilotes nous permettra déjà d'avoir un canevas ou un modus operandi, comment opérer dans d'autres provinces. Mais là encore, nous n'allons pas utiliser les demandes de 5 provinces pour les transposer aux autres. Il est important que les provinces concernées puissent nous donner également les éléments ou leurs urgences, parce que l'urgence d'une province n'est pas l'urgence
pas nécessairement de l'autre.
Voilà, bien voilà. Sûr.
Bien, on va clôturer cet entretien. Avant de terminer, Monsieur Lucien, est-ce que vous avez un message à passer?
Bon, le message reste le même. C'est un sujet qui nous concerne tous et il nous faut nous impliquer tous. Et le plus grand message, c'est de faire passer aux victimes, parce que c'est d'abord pour eux que nous allons travailler, de leur dire que plus jamais ils ne seront seuls. Il est important, c'est pourquoi c'est le travail que nous sommes en train de faire pour le moment, c'est de sensibiliser, de faire en sorte que chaque Congolais et les victimes puissent s'approprier cette loi et par la suite voir comment nous allons évoluer pour faire en sorte que vraiment nos populations qui vivent dans une misère indescriptible, inhumaine, puissent enfin recevoir une aide, un soutien, un tant soit peu de la République, mais que cela puisse permettre en tout cas que nous puissions nous en occuper. Et là, nous avons l'implication personnelle du couple présidentiel, du chef de l'État. Il a encore martelé du haut de la tribune des Nations Unies. C'est une grande première. Il faut qu'on se le dise. Ça n'existe pas ici en Afrique une institution pérenne qui
est chargée de la réparation.
Des réparations. Des victimes, oui. Donc, on est en train d'initier quelque chose qui doit être apprécié en tant que tel. Et il y a une implication de toutes les personnalités qui sont déjà dans ces domaines, qui sont prêts à nous accompagner pour que les choses se passent de la meilleure façon.
Bien, Monsieur Lucien Lundula, directeur général du Fonarev, merci.
Merci à vous.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde. Tati Mapuku a assuré la coordination et la réalisation au micro. Jody Daniel Kachama, tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.